C'est la rentrée pour nos enfants. Les parents sont contents, les enfants moins, pour la plupart. Quoique, il y a certains parents qui ne le sont pas trop aussi. Souvent, c'est ceux qui sont avec les enfants. En tout cas, ben, je suis heureux d'être de retour parmi vous. On a eu un mois d'août assez chargé. J'étais à Bordeaux, dans une petite communauté implantée. Puis à Villeneuve-sur-Lot, pour la Convention de France Évangélisation, avec plein de choses qui se sont mises en place. Je vous raconterai ça une autre fois quand tout le monde sera là, mais voilà, on a vécu des choses intéressantes. Isabelle était aux conférences GLO en Écosse avec Samuel, trois jours de conférence, c'était sympa. C'est marrant parce que les responsables de GLO se sont réunis pour savoir, vous savez comment c'est dans les missions, ils se réunissent entre responsables, comme on a fait d'ailleurs à France Évangélisation. Et puis un des responsables a dit, ben, ils étaient en train de parler des membres de GLO, et il y en a un qui a dit, j'aimerais bien savoir si le chien de Daniel est membre de GLO ou pas. Donc voilà, c'était pour l'anecdote. Je n'ai pas de vidéo, mais j'ai la lecture d'un texte. On fait suite au texte que nous avons vu du livre des Actes, depuis maintenant quelques mois, on reprend aujourd'hui. Donc le texte qui nous intéresse aujourd'hui se trouve dans Actes au chapitre 17, et on va le lire ensemble, versets 16 à 34. Paul à Athènes, donc ce fameux discours à l'aréopage. Comme Paul les attendait à Athènes, il avait en lui-même l'esprit exaspéré en contemplant cette ville vouée aux idoles. Il était irrité, disent d'autres versions. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et ceux qui craignaient Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qui s'y rencontraient. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres disaient « Il semble être un prédicateur de divinités étrangères, cela parce qu'il annonçait la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection. » Alors ils le prirent, le menèrent à l'aréopage et dirent « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement dont tu parles ? Car tu portes à nos oreilles des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. » Or tous les Athéniens et les étrangers venus parmi eux ne passaient leur temps qu'à dire ou écouter quelques nouvelles. Paul, debout, au milieu de l'aréopage, dit « Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux, car en passant j'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte, et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Il a fait que toutes les nations humaines, issues d'un seul homme, habitent sur toute la face de la terre. Il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure, afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver si possible en tâtonnant. Or, il n'est pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art de l'imagination des hommes. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi Paul sortit du milieu d'eux, quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Parmi eux, Denis, l'aréopagite et une femme du nom de Damaris, et d'autres encore. Alors, comment parler de Christ, ou comment parler de Jésus-Christ, le Dieu inconnu, au milieu des dieux superstars? Parce que c'est ça dont il s'agit. Hein. Athènes, faire un petit tour d'horizon. Hein. La première conquête du peuple grec, c'est la poésie épique écrite par Homère, l'Iliade, et la gloire des héros guerriers, Achille, le plus brave, Ulysse, le plus subtil, Hector, le plus aimé, l'Odyssée, et la conquête de la mer, la lutte contre les pièges, le triomphe des marins qui vont soumettre le monde. La Méditerranée devient un lac grec. Ces cités sont installées sur les bords, comme le souligne le célèbre Platon, comme des grenouilles autour d'une mare. Des noms aussi illustres les uns que les autres sortent de cette ville de lumière. Solon, qui est dès le 7e siècle avant notre ère, se fait champion de la démocratie. Au 5e siècle, la ville comptait quelques 130 000 citoyens, femmes et enfants compris, 70 000 étrangers et 200 000 esclaves. C'est d'ailleurs ces derniers qui ont été les ouvriers de construction des bâtiments publics et des temples. Vers 600, Thalès se distingue en géométrie. Anaxagore et Empédocle, au 5e siècle, s'intéressent à l'astronomie et à la biologie. Un certain physicien qui s'appelle Feinberg montre le parallélisme frappant entre les prévisions atomiques de Démocrite et d'Einstein. Sophocle, en 405, dans son Œdipe au roi et Œdipe à Colone, pose le problème du destin. Comment échapper à la fatalité? Esquille a les mêmes préoccupations. Pindare célèbre les victoires sportives. Pour lui, une victoire athlétique devient une victoire militaire. Je ne sais pas si on arrive à entendre et à faire le parallèle avec tout ce qu'on voit aujourd'hui de nos jours. Hein. On sort de l'euro, là. Hérodote est le père de l'histoire et de la géographie. Hippocrate s'intéresse au corps humain, à la médecine qu'on appelle psychosomatique. D'ailleurs, on a tous entendu parler de son fameux serment. Aristophane, c'est le rire satirique, le rire de l'humour sans méchanceté, qu'utilisera plus tard Molière. Périclès lit la Gerbe en donnant son nom à ce grand 5e siècle. Il dirigera la cité pendant 32 ans. C'est le temps des chefs-d'œuvre, des constructions magnifiques, de la suprématie d'Athènes. Un âge d'or qui va durer près d'un demi-siècle. Puis, c'est le déclin. C'est le déclin. La décadence morale, les prostituées, souvent des esclaves, emplissent les maisons d'Athènes et de Pirée. Démosthène, orateur populaire, déclare « Nous avons des courtisanes pour le plaisir, des concubines pour être bien soignées, des épouses pour nous donner des enfants légitimes. » Est-ce étonnant que le christianisme, finalement, ait eu un énorme écho auprès des femmes et des esclaves? Parce que c'est là qu'il a eu vraiment oreille, au départ, les femmes et les esclaves. Athènes, visitée par Paul, n'a plus le faste de l'époque de Périclès, hein, même si tous les monuments sont encore là. Athènes est devenue une colonie romaine. Elle reste néanmoins un centre religieux, intellectuel, très renommé à l'époque. Toutes les écoles de pensée sont représentées à Athènes. Alors juste avant, pour nous rafraîchir un petit peu la mémoire, hein, versets 1 à 15, à la synagogue de Thessalonique, les copains de Paul, Jason et quelques chrétiens, goûtent à l'arrestation puis sont relâchés sous caution. Les effets de la prédication de Paul pendant 3 sabbats, des juifs jaloux, provocateurs, dit le texte, ont créé une émeute. Les accusations révèlent à quel point Paul et ses équipiers étaient connus, même en Grèce, où ils ne sont là que depuis quelques semaines. D'ailleurs, le texte le dit au verset 6, « Ces gens-là ont bouleversé le monde. » Ces gens-là ont bouleversé le monde. C'est étonnant. Quel témoignage. Pour la première fois, Paul va devoir fuir de nuit, laissant derrière lui une petite communauté de chrétiens fidèles auxquels il écrira 2 lettres pleines d'affection que nous avons le privilège d'avoir dans notre Bible, 1 et 2 Thessaloniciens. Avant Athènes, Paul est passé par Bérée. Hein, quand on dit Bérée, on a tout de suite des images qui se créent en nous, hein, en tout cas pour ceux qui ont lu leur Bible et qui la connaissent. Ville située à 70 km de Thessalonique. Aujourd'hui, on peut y voir un minaret. C'est le mauvais souvenir de l'occupation turque. Mais dans cette ville que Paul va visiter, il va être reçu avec enthousiasme. Il va être écouté. Et écouté, pas d'une manière simple, enfin, pas d'une manière banale, on va dire. Parce que chaque jour, ils examinaient les Écritures pour vérifier si tout ce qu'il enseignait était exact. Aujourd'hui, donc, on se retrouve à Athènes, où Paul va trouver des oreilles philosophes auprès des disciples épicuriens et stoïciens. Alors peut-être ça serait bien de dire c'est qui ces gens-là. Épicure, en fait, pourrait être défini par « mangeons, buvons, parce que demain nous mourrons ». Voilà, ça c'est sa maxime, hein, son proverbe. Il a juste écrit à peu près 300 ouvrages, hein, n'importe qui. Hein. À 35 ans, il s'installe à Athènes où il enseigne aux pauvres dans son jardin les joies simples de la vie quotidienne. Très simple. Il ne croit pas à l'immortalité de l'âme, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Épicure encourage à cultiver l'amitié et l'esprit communautaire. Il n'est pas le promoteur de la débauche. Ça, c'est la mauvaise réputation qu'on lui a donnée. Pas du tout le promoteur de la débauche. Quant aux stoïciens, on les verra peut-être un peu plus en détail après, leur philosophie de la vie se résume à « abstiens-toi de désirer trop de choses et supporte ton sort ». Supporte ce qui t'arrive, tes épreuves, tes souffrances, etc. Et le stoïcisme vient de Stoa, le portique promenade, de promenade couverte d'Athènes, où enseignait Zénon, mort vers 260 avant notre ère. Ils étaient en quelque sorte les snobs de l'intellect. Ils vont d'ailleurs se moquer de Paul, le traitant finalement de discoureur, de perroquet, de picoreur. On verra plus loin comment le discours de Paul va les secouer. L'apôtre Paul donc va se retrouver dans un endroit où les stars du débat, parce que là c'est vraiment les stars du débat, tels que Socrate et Platon se sont aussi tenus. C'est la première fois de sa vie que Paul se retrouve devant un auditoire aussi classe, enfin aussi sélect, aussi intellectuel. D'habitude, il s'adresse à des juifs, des théologiens. Certains commentateurs ont osé affirmer que le discours de Paul à l'Areopage était plat, mais je pense que c'est faux, c'est plutôt de la dynamique, pleine de psychologie. Il est d'ailleurs inscrit en grec sur une stèle de bronze à l'endroit même où il fut prononcé. Il paraît, hein, je ne suis pas allé voir, mais il paraît. Donc son auditoire est constitué de grecs, d'étrangers. Paul ne va pas utiliser bien sûr le même argumentaire qu'il utilise d'habitude avec les juifs, pas du tout le même auditoire. Il ne va pas parler de l'histoire du peuple juif, mais de l'histoire du peuple grec, de ses poètes, de ses dieux, de ses aspirations insatisfaites. Homme athénien, je vous trouve extrêmement religieux. Est-ce que c'est un compliment? Est-ce que c'est de l'hypocrisie? Moi, je pense que c'est ni l'un ni l'autre. C'est pas un compliment parce que c'est une constatation. Il constate ce qu'il en est. Il y a des effigies à tous les dieux. Et au milieu de tout ça, il y a une effigie à un dieu inconnu. Donc, il n'est pas en train de complimenter, mais il n'est pas non plus hypocrite, car Paul n'est pas irrité envers les hommes. Il est dit qu'il était exaspéré, irrité dans d'autres textes, mais pas envers les gens. Pas envers les gens. Il était irrité envers les idoles elles-mêmes qui remplissaient le paysage. Et dans notre évangélisation, il est hors de question d'être en colère après ceux qui ne pensent pas comme nous. Il est hors de question d'être en colère envers ceux qui ne vivent pas comme nous avons décidé de vivre. Il n'est pas question d'être en colère envers ceux qui ont décidé de ne pas croire comme nous croyons. Pas du tout. Pas du tout. N'est-il pas dit de Jésus devant le refus de l'homme riche qu'il l'aima ? L'homme riche, on connaît son idole. C'est ce qui l'a empêché de suivre le Seigneur. Mais malgré tout, le Seigneur l'aima. C'est bon de s'en rappeler. Et dans son discours, Paul va faire une distinction entre la religion et la foi, la dévotion et l'engagement, les rites, les rites et l'élan du cœur. Il va souligner que la religiosité, même bien intentionnée, ne suffit pas. La preuve, c'est qu'on a dressé un autel au Dieu inconnu, pour dire que la religiosité ne sert pas. Albert Schweitzer, médecin, pasteur, théologien protestant, philosophe et musicien alsacien, toutes les qualités, ce brave homme, a dit qu'il rapporte qu'il y avait effectivement à Athènes un autel dédicacé au Dieu inconnu, mais au pluriel, hein, pas au singulier. Et Jérôme, un des pères de l'Église, dit que Paul aurait arrangé le sens de l'inscription pour l'adapter à l'usage de la prédication monothéiste. Quoi qu'il en soit, Paul constate qu'une place reste vide dans ce panthéon de tous les dieux de la mythologie grecque et des divinités importées de l'étranger. Il y a une place, un lieu, un endroit qui est vide, au Dieu inconnu. Et il va utiliser ça. Il va créer un pont. Et c'est ça qui est fabuleux. Il semblerait finalement que ce Dieu inconnu, eh bien, c'est lui le vrai Dieu. Ce Dieu dont il est dit qu'il est inaccessible et qui s'est fait connaître. Paul le connaît et il vient l'annoncer. Franchement, c'est un exemple fabuleux de mission transculturelle. Vous savez ce que c'est la mission transculturelle ? C'est d'arriver dans un endroit qui n'a pas les mêmes codes que nous, n'a pas la même façon de croire que nous, pas la même façon de vivre, pas la même culture, ni religieuse, ni sociale. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes immergés là-dedans. Il ne s'agit pas simplement de sortir sa Bible et de dire « Vous êtes des pécheurs, vous devez vous repentir. Si vous ne croyez pas en Jésus, vous allez en enfer. » Parce que derrière le mot « repentir », derrière le mot « enfer », derrière le mot « Dieu », derrière le mot « vie », ces gens-là peuvent mettre tout autre chose que ce que nous mettons avec notre culture et avec notre foi qui est judéo-chrétienne. C'est ce qu'on appelle l'exemple missionnaire transculturel. Paul va trouver un point d'attache et il va se fixer là-dessus. Je dirais presque comme les Indiens, pour certaines tribus, le point d'attache, ça va être le Créateur. Ce Créateur, vous le découvrez, vous, au travers de la nature. Il s'est révélé à vous au travers des arbres, des animaux, des montagnes, des cailloux. Mais moi, je vais vous dire qu'il s'est révélé aussi d'une autre manière, au travers de quelqu'un comme nous, d'une personne. Et puis, petit à petit, on annonce l'Évangile. En tout cas, c'est un bel exemple. C'est difficile d'accrocher un public comme ça, hein, d'emblée. Et Paul va rendre témoignage au Dieu créateur qui a fait toutes choses et qui donne la vie. Pour les Grecs, c'est Zeus, le Dieu qui saute aux yeux. Qui saute aux yeux. En contemplant le spectacle de la nature et l'ordre du monde. Donc, dans la tête des Grecs, il y avait quand même cette idée-là du Dieu créateur. Ce Dieu s'est imposé aussi à Voltaire. Hein. Vous vous souvenez, Voltaire, ce qu'il a dit, rationaliste, qui ne pouvait concevoir une horloge sans horloger pour la fabriquer. Cicéron écrivait un siècle avant notre ère, je cite, « Combien cet univers est merveilleux dans toutes ses parties, comme l'art infini de l'ouvrier éclate dans la perfection des détails. Avec quelle ingénieuse prévoyance il a formé le corps de l'homme et celui des animaux. De quels avantages il a comblé l'homme. Avec quelle richesse et quelle magnificence il a embelli son séjour. » Fin de citation. Il y a des cultures contemplatives de la nature, ça nous interpelle, ça nous invite aussi à l'émerveillement devant la création. Et les philosophes grecs célébraient les bontés du Dieu invisible dans sa providence, mot d'ailleurs tiré du vocabulaire stoïcien. Hein. Mais Paul va aller beaucoup plus loin. Il a devant lui un auditoire qui commence à l'écouter. Ce n'est pas donné à tout le monde, hein, d'arriver quelque part et de parler, que les gens t'écoutent. Il va donc planter le décor. Il va commencer par « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, il n'est pas servi par des mains humaines. » Mine de rien, par ces quelques mots, Paul est en train de condamner le Parthénon qui se dresse au milieu de tous les sanctuaires et les milliers de prêtres. Parce que c'est ça la réalité d'Athènes. Par ces quelques mots, il est en train de faire table rase sur tout ça. Quelqu'un a dit que pour en avoir dit beaucoup moins, Socrate a dû boire la ciguë. C'est un poison tiré d'une plante. Souvenez-vous aussi de cette scène lorsque Jésus qualifie le temple de caverne de voleurs. En revers de main, Paul a balayé toute la mythologie grecque. En un revers de main, en une parole, en une phrase, toute la mythologie grecque a été balayée. Les temples, les idoles de marbre, d'or, la religiosité, tout ça a été balayé par cette simple phrase. Il est le Seigneur du ciel et de la terre, il n'habite pas dans des temples faits de mains d'homme, il n'est point servi par des mains humaines. Paul plante alors un premier aspect du décor de l'Évangile. Il dit « Dieu a fait que tous les hommes soient sortis d'un seul rang. De Dieu, nous sommes la race. » Paul fait appel à un poète qui s'appelle Aratus, originaire comme lui de Cilicie, qui 3 siècles plus tôt avait déclaré que tous les hommes sont des enfants de Dieu et des frères. Mais lui, il raccourcit le dire d'Aratus. Et ce n'est pas rien comme affirmation, parce que Paul remet en cause, finalement, la race des seigneurs, de ceux qui dominent, qui, à Athènes, ont des esclaves. Ils jettent le pavé dans la mare. Paul attaque le système honteux de l'esclavage, mine de rien. Il fait maintenant de la politique, la bonne politique, celle qui nous oblige finalement à défendre les petits, les pauvres, les opprimés, et finalement à remettre l'équilibre entre Dieu et son prochain. Parce que dans une ville comme Athènes, où quand tu vois Dieu présenté sur des stèles, et à côté de ça, tu vois des prostituées, et tu vois des esclaves, il y a quand même comme quelque chose qui cloche. Et Paul, en une seule phrase, il va balayer tout ça. Il va dire, non mais attendez les gars, là, il y a un truc qui ne va pas. Il ne le dit pas de cette manière, mais il le dit quand même. Il le dit quand même. Il ne parle pas du péché, il n'emploie pas le mot péché, mais il le souligne quand même. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis, Paul a des antennes spirituelles pour capter l'ambiance. Paul sent qu'il ne pourra pas parler très longtemps. Il sait que son discours va être écouté pendant un certain laps de temps, mais à un moment donné, ça ne va pas tenir. Les gens vont péter les plombs. Et il le sait. Et donc, il va planter un troisième élément du décor de l'Évangile. Il va dire, mais Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, sous-entendu, vous êtes un peu ignorant quand même, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. C'est de la provoque. Parler déjà d'ignorance à des gens, aux gens les plus intelligents du moment, parce qu'ils étaient là, sous la réopage, ces gens qui font des débats. Et lui, il arrive en leur disant, mais vous êtes ignorants. Ces gens qui sont les plus intelligents de la planète, qui ont la civilisation la plus brillante, on l'a vu, j'ai fait un petit descriptif de quelle civilisation, à quelle civilisation nous avons affaire. Parler de repentance en plus à des gens qui sont tellement religieux, des statues de partout, des temples, des prêtres, en veux-tu, en voilà. Et là, il va leur parler de repentance. La repentance est l'une des doctrines fondamentales de la Bible, mais c'est aussi l'une des plus mal comprises. Ce serait trop long de le faire maintenant, de vous expliquer vraiment en détail. Mais un dimanche, on en parlera un peu plus. On peut juste dire que personne n'est prêt à recevoir et à croire l'Évangile, à moins d'être prêt aussi à se repentir de ses péchés et à s'en détourner. Mais Paul va au clash. Le vrai Dieu ne se laisse pas enfermer dans des idoles, manipulées, utilisées par l'homme. C'est l'homme, à l'homme de se soumettre à Dieu, de lui obéir et pas le contraire. Le contraire, c'est le langage de la religion. Et à croire l'Évangile, à moins d'être prêt de reconnaître ça, c'est difficile d'arriver à la repentance. Parce que finalement, si tu suis tous les rites qui sont liés à la religion à laquelle tu adhères, tu n'as pas besoin de te repentir du moment où tu fais tes prières et que tu vas au temple. Quel intérêt de se repentir? Quel intérêt de de reconnaître, puisqu'on en a apaisé les dieux par nos rites. En tout cas, se servir de Dieu, pour les Athéniens, c'était oui. Servir Dieu, c'était non. Et Paul appelle les Athéniens à la conversion. Et dans un ultime effort, il va faire un dernier effort, il va mettre la dernière pièce du décor de l'Évangile en visant particulièrement les stoïciens. Je cite, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous la preuve certaine en le ressuscitant des morts. » C'est la dernière phrase qui est dure à avaler pour les stoïciens. Celle-là, elle reste coincée, là, tu vois. Parce que les stoïciens parlent de l'immortalité de l'âme, mais Paul parle de la résurrection de Jésus-Christ. Et il y a une différence qui est de taille. Le stoïcisme fait appel à la force intérieure de l'homme raisonnable pour faire face aux épreuves de la vie, à l'adversité. C'est par tes propres forces que tu vas arriver à combattre et à passer les épreuves de la vie. Paul affirme que l'homme est incapable par lui-même de faire le bien. Il a besoin d'un sauveur et il a besoin d'un ami en même temps. Le stoïcisme considère le corps comme la prison de l'âme, d'où un certain mépris pour le corps. Paul affirme que le corps est sacré, il est le temple du Saint-Esprit, il participera à la résurrection et il affirme aussi que toute immoralité doit être bannie de manière implacable. Le stoïcisme croit à l'immortalité de l'âme, il nie l'existence, la nécessité, en tout cas, d'un salut apporté par Dieu. Et Paul proclame la résurrection de Christ, la résurrection corporelle de Christ. Ça, ça a du mal à passer. Et il montre par là que Dieu, que cette résurrection corporelle est indispensable à notre salut. Que Dieu lui seul peut faire un tel miracle, celui de la résurrection. C'est lui qui prend l'initiative et c'est lui qui va en assurer la finalité. On l'a vu vendredi soir avec Frédéric. Dieu nous réclame la repentance et la conversion qui nous unissent au Seigneur Jésus-Christ, vivant. Il commence un travail en nous et il le termine. Je ne sais pas de quelle manière on peut faire un parallèle avec ce que, dans notre société, on vit par rapport à Athènes, par rapport à tout ce système de pensée, par rapport à toutes les idéologies, les politiques, les philosophies, les religions. Mais j'aime bien cette image où on voit toutes ces tombes, on va dire, fermées. Et la seule qui est ouverte, c'est celle de Christ. La seule où on ne peut pas trouver le corps, c'est celle de Christ, parce qu'il est ressuscité. Et la résurrection de Christ est à la base de notre salut. Sans la résurrection de Christ, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas d'église. Et franchement, s'il n'y a pas de résurrection de Christ, ce matin, on est là pour rien. On va mieux aller jouer aux boules ou à la plage. Que Dieu vous bénisse, je vais prier. Seigneur, merci pour ce texte qui nous rappelle combien ton message est transculturel. Il s'adresse à toutes les cultures, à tout homme, à toute femme, sous le soleil. Seigneur, tu nous montres par cette histoire de Paul à Athènes qu'il est possible d'annoncer l'Évangile aussi dans notre société, dans notre monde, où tellement d'idéologies, de philosophies et de religions se croisent, où finalement on fait une sorte de mix aussi parfois, même dans le christianisme. Seigneur, tu nous montres aussi par là que, par ton esprit, Seigneur, tu peux toucher le cœur. Seigneur, il y a des conversions. Le texte nous le dit. Ce jour-là, certains ont refusé, d'autres ont dit oui. Une petite église est née à Athènes, comme une petite église est née à Bérée, comme une petite église est née à Thessalonique. Seigneur, on est reconnaissant de réaliser aussi encore une fois ce matin que là où deux ou trois sont assemblés, en ton nom, tu es au milieu d'eux. Peut-être qu'autour de nous, nous avons des personnes qui sont à deux doigts de te rencontrer, de te donner leur vie. Avec deux personnes, Seigneur, ça crée une communauté. Seigneur, on te prie de te servir de nous comme tu t'es servi de Paul ce jour-là. À notre niveau, bien sûr. Et Seigneur, encore merci de t'être révélé à nous. Au nom de Jésus. Amen.